Chapitre 4. Vous parlez de pittoresque. Si vous aviez vu le pont du Tutupampan ce matin de mai 1881, c'est là qu'il y en avait du pittoresque. Tous les directeurs en tenue de cérémonie. Tournatoire, directeur général de la santé. Costecalde, directeur des cultures. Bravida, général en chef de milice. Et 20 autres offrant aux yeux un mélange de costumes variés, brodés d'or et d'argent. Beaucoup portant en outre le manteau de grande première classe, rouge, galonné d'or. Au milieu de cette foule chamarrée, l'attache blanche du père Bataillet, grand aumônier de la colonie et chapelain du gouverneur. La milice surtout étincelait. La plus grande partie des simples miliciens ayant été expédiés par les autres bateaux, il ne restait guère là que les officiers, sabre au poing, revolver à la ceinture, le buste cambré, la poitrine en avant, sous le coquet dolman, à aiguillette et à brandebourg, fiers surtout de leurs magnifiques bottes aux miroitants vernis. Parmi les uniformes et les costumes, se mêlaient les toilettes des dames de couleurs chatoyantes, claires et gaies, avec des rubans et des écharpes flottant à l'air, et par-ci par-là quelques coiffes tarasconnaises de servantes. Sur tout cela, sur le navire aux cuivres étincelants, aux mâts dressés vers le ciel, imaginez un beau soleil, un soleil de jour de fête, pour horizon le large Rhône, vagué comme une mer, rebroussé par le mistral, et vous aurez l'idée du Tutupampan en partance pour Port Tarascon. Le duc de Mons n'avait pu assister au lancement retenu à Londres par une nouvelle émission. C'est qu'il en fallait de l'argent pour payer bateaux, équipage et ingénieurs tous les frais de l'émigration. Le duc avait annoncé des fonds le matin même par dépêche, et tous admiraient le côté pratique de l'homme du Nord. « Quel exemple il nous donne, messieurs !» déclamait Tartarin, ajoutant toujours. « Imitons-le, pas d'emballement !» C'est vrai que lui-même avait l'air très calme, très simple aussi, sans le moindre fla-fla au milieu de tous ses administrés en costume, seulement le grand cordon de l'ordre en sautoir sur sa redingote. Du pont de Tutupampan, on voyait les colons venir de loin, par groupes, apparaître à des tournants de rue, puis déboucher sur le quai, enfin reconnaissables et salués par leur nom. « Oh, voilà les roquetaillades ! T'es, monsieur Franquebalm ?» Et des cris, des bravos enthousiastes. On fit entre autres une ovation à l'antique douairière, comtesse d'Aigueboulide, quasi centenaire, quand on la vit monter lestement à bord en mantelet de soie puce, la tête branlante, portant d'une main sa chaufferette et de l'autre sa vieille perruche empaillée. La ville se vidait de minute en minute. Les rues semblaient plus larges entre les maisons closes, les boutiques à volets fermés et toutes les persiennes aux jalousies baissées. Tout le monde à bord, il y eut une minute de grand recueillement, de silence solennel, bercé par le sifflement de la vapeur sous pression. Des centaines d'yeux se tournaient vers le capitaine, debout sur la dunette, prêt à donner l'ordre de déraper. Tout à coup, quelqu'un cria « Et la tarasque !» Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de la tarasque, l'animal fabuleux qui a donné son nom à la ville de Tarascon. Pour rappeler son histoire brièvement, c'était cette tarasque en des temps très anciens, un monstre redoutable qui désolait l'embouchure du Rhône. Sainte Marthe, venue en Provence après la mort de Jésus, alla, vêtue de blanc, chercher la bête au milieu des marais et l'amena en ville, lié seulement d'un ruban bleu, mais dompté, captivé par l'innocence et la piété de la sainte. Depuis, les Tarasconnais célèbrent tous les 10 ans Une fête où l'on promène à travers les rues un monstre en bois et carton peint, tenant de la tortue, du serpent et du crocodile, grossière et burlesque effigie de la tarasque d'autrefois, vénérée maintenant comme une idole, logée aux frais de l'État et connue dans tout le pays sous le nom de la Mère Grand. Partir sans la Mère Grand ne leur semblait pas possible. Quelques jeunes gens s'élancèrent et l'amenèrent au quai rapidement. Ce fut une explosion de larmes, de cris d'enthousiasme, comme si l'âme de la ville, la patrie elle-même, respirait en ce monstre de carton d'un si difficile embarquement. Beaucoup trop grande pour trouver place à l'intérieur du navire, on attacha la tarasque sur le pont à l'arrière. Et là, cocasse, énorme, l'air d'un monstre de féerie avec son ventre en toile et ses écailles peintes, sa tête dressée au-dessus du bastingage, elle complétait bien l'ensemble pittoresque et bizarre du chargement, semblait une de ces chimères sculptées à la proie des navires et chargée de présider aux destinées du voyage. On l'entourait avec respect. Quelques-uns lui parlaient, elle la flattait de la main. En voyant cette émotion, Tartarin craignit qu'elle n'éveillât dans les cœurs le regret de la patrie quittée, et sur un signe de lui, le capitaine Scrapuccina commanda tout à coup, d'une voix formidable, « Machine en avant !» Aussitôt éclatèrent les sonneries de la fanfare, les sifflements de la vapeur, les bouillonnements de l'eau, sous l'hélice, dominé par la voix de Scourbagnès. Fin des brutes, faisons du bruit! Le rivage s'enfuit d'un bond. La ville, les tours du roi René, reculèrent dans le lointain, de plus en plus rapetissés, comme brouillés dans la vibrante lumière du soleil sur le Rhône. Tous penchés sur les bordages, tranquilles, souriants, indifférents, regarder la patrie s'en aller, disparaître là-bas, sans plus d'émotion maintenant qu'ils avaient avec eux la bonne tarasque, qu'un dessin d'abeilles changeant de ruche au son des chaudrons ou qu'un grand triangle des tourneaux envole vers l'Afrique. Et vraiment, elle les protégea à leur tarasque. Tant divin, mère resplendissante, pas une tempête, pas un grain, jamais traversé ne fut plus favorable. Au canal de Suez, on tira bien un peu la langue sous le feu d'un soleil ardent, malgré la coiffure coloniale adoptée par tous à l'exemple de Tartarin. Casque de liège recouvert de toile blanche et garni d'un voile de gaze verte, mais ils ne souffrirent pas trop de cette température de fournaise à laquelle le ciel de Provence les avait de longtemps acclimatés. Après Port Saïd et Suez, après Aden, la mer Rouge franchie, le Tutupampan se lança à travers la mer des Indes, d'une marche rapide et soutenue, sous un ciel blanc, laiteux, velouté comme un de ces aïolis, une de ces crémeuses pommades d'ail que les émigrants mangeaient à tous leurs repas. Ce qu'ils s'en consommaient d'ail à bord. On en avait emporté d'énormes provisions, et son délicieux bouquet marquait le sillage du navire, mêlant l'odeur de Tarascon à l'odeur de l'Inde. Bientôt on longea des îles, émergeant de la mer en corbeilles de fleurs étranges, où voltigeaient de magnifiques oiseaux habillés de pierreries. Les nuits calmes, transparentes, illuminées de myriades d'étoiles, semblaient traversées de vagues musiques lointaines et de danses de bayadères. Aux Maldives, à Ceylan, à Singapour, on eût fait des escales divines, mais les talents connaisses, Madame Scourbagnès en tête, défendaient à leur mari de descendre à terre. Un féroce instinct de jalousie les mettaient tout en garde contre ce dangereux climat des Indes et ses effluves amollissantes, qui flottait jusque sur le pont du Tutupampan. Il n'y avait qu'à voir, le soir venu, le timide Pascalon s'appuyer au bastingage auprès de Mademoiselle Clorinde des Espazettes, grande et belle jeune fille dont le charme aristocratique l'attirait. Le bon Tartarin leur souriait de loin dans sa barbe et d'avance prévoyait un mariage pour l'arrivée. Du reste, depuis le commencement de la traversée, le gouverneur se montrait à tous d'une douceur, d'une indulgence qui contrastait avec les violences et les sombreurs du capitaine Scrapuccina, véritable tyran à son bord, s'emportant au moindre mot, parlant tout de suite de vous faire fusiller comme un singe vert. Tartarin, patient et raisonnable, se soumettait aux caprices du capitaine, cherchait même à l'excuser, et pour détourner la colère de ses miliciens, leur donnait l'exemple d'une infatigable activité. Les heures de sa matinée étaient consacrées à l'étude du Papoua, sous la direction de son chapelain, le révérend père Bataillet, qui, en sa qualité d'ancien missionnaire, connaissait cette langue bien d'autres. Dans la journée, Tartarin réunissait tout son monde, soit sur le pont, soit dans le salon, et faisait des conférences, débitait sa science toute fraîche sur les plantations de canne à sucre et l'exploitation du tripan. Deux fois par semaine, cours de chasse, car là-bas, dans la colonie, on allait trouver du gibier. Ce ne serait pas comme à Tarascon, où l'on était réduit à chasser des casquettes lancées en l'air. « Vous tirez bien, enfant, mais vous tirez trop vite, » disait Tartarin. Ils avaient le sang trop chaud, il faudrait se modérer. Et il leur donnait d'excellents conseils, leur enseignait les temps qu'il fallait prendre selon les diverses espèces animales en comptant méthodiquement, comme au métronome. Pour la caille, trois temps. Un, deux, trois, pan, ça y est. Pour la perdrix, et secouant sa main ouverte, il imitait le vol de l'oiseau, pour la perdrix, comptez deux seulement, un de pan, ramassez, elle est morte. Ainsi passaient les heures monotones de la traversée, et chaque tour d'hélice rapprochait de la réalisation de leurs rêves tous ces braves gens qui se berçaient au long de la route de beaux projets d'avenir, voyageaient avec l'illusion de ce qui les attendait là-bas, ne parlaient qu'installations, défrichements, embellissements imaginaires à leur future propriété. Le dimanche était jour de repos, jour de fête. Le père bataillait et disait la messe à l'arrière en grande pompe. Et les sonneries de clairons éclataient, les tambours battaient au chant, au moment où le prêtre levait l'hostie. Après la messe, le révérend père racontait quelqu'une de ses paraboles ardentes où il excellait, moins un sermon qu'un mystère poétique tout brûlant de foi méridionale. Voici un de ces récits, naïfs comme une histoire de saint, se déroulant sur les vitraux d'une vieille église de village. Mais pour en savourer tout le charme, il vous faut imaginer le bateau lavé de frais, tous ses cuivres reluisants, les dames en cercle, le gouverneur sur son fauteuil canné, entouré de ses directeurs en grand costume, les miliciens sur deux rangs, les matelots dans les enfléchures et tout ce monde silencieux, attentif, les yeux tournés vers le père, debout sur les marches de l'autel. Les coups de l'hélice rythment sa voix. Sur le ciel pur, profond, la fumée du steamer s'allonge droite et mince. Les dauphins cabriolent au ras des lames. Les oiseaux de mer, goélands, albatros, suivent en criant le sillage du navire et le père blanc, avec son épaule de côté, a l'air lui-même quand il lève et secoue ses longues manches, d'un de ces grands oiseaux battant des ailes et prêt à partir. Chapitre 5. La véritable légende de l'Antéchrist. C'est encore au paradis que je vous emmène, mes enfants, dans cette vaste antichambre bleue de roi où se tient le grand Saint-Pierre. Son trousseau de clés à la ceinture, toujours prêt à ouvrir sa porte aux âmes des élus lorsqu'ils s'en présentent. Malheureusement, depuis des années et des années, l'humanité est devenue si méchante que les meilleurs après la mort s'arrêtent au purgatoire sans aller plus haut, et que le bon Saint-Pierre n'a pour toute besogne qu'à passer ses clés rouillées au papier de verre et à chasser les toiles d'araignée tendues en travers de sa porte comme des scellés de justice. Par moments, il a l'illusion que quelqu'un frappe. Il se dit « Enfin, voilà un, c'est pas trop tôt !» Puis son guichet ouvert, rien que l'immensité, l'éternel silence, les planètes immobiles ou roulant dans l'espace avec un bruit doux d'orange mûr détaché de la branche, mais pas l'ombre d'un élu. Pensez, quelle humiliation pour ce bon saint qui nous aime tant et comme il se désole de jour et de nuit, comme il en tombe de ces larmes brûlantes, dévorantes, qui ont fini par creuser au long de ses joues deux ornières profondes, pareilles à celles qu'on voit sur les routes des carrières, entre Tarascon et Montmajour. Or, une fois que Saint-Joseph, venu pour lui tenir compagnie, car à la longue il s'ennuyait, le pauvre porte-clé, toujours seul dans son antichambre, or, une fois donc, Saint-Joseph lui disait pour le consoler, « Mais en définitive, qu'est-ce que ça peut te faire que ces gens d'en bas ne se présentent plus à ton guichet? Est-ce que tu n'es pas bien ici, caresser les plus douces musiques et des odeurs les plus suaves ?» Et tandis qu'il parlait ainsi, du fond des sept ciels ouverts en enfilade, s'écoulait une brise tiède chargée de sons, de parfums, dont rien ne saurait vous donner l'idée, mes chers amis, pas même ce goût de citronnelle et de framboise fraîche que la laine de mer vous souffle depuis un moment dans la figure de ce grand bouquet d'îles roses sous le vent. Hé ! Fit le bon Saint-Pierre, je ne m'y trouve que trop bien dans ce paradis de bénédiction, mais j'y voudrais tous ces pauvres enfants avec moi. Et brusquement pris d'indignation, « Ah, les gueux, ah, les imbéciles !»« Non, vois-tu, Joseph, le Seigneur est trop bon pour ces misérables. Et à sa place, je sais bien ce que je ferai. »« Que ferais-tu, mon brave Pierre ? T'es pardi, hein, grand coup de pied dans la fourmilière et va te promener de l'humanité. » Saint Joseph hocha sa vieille barbe. Il le faudrait terriblement fort, tout de même, ce coup de pied qui démolirait la terre. Pense encore pour les Turcs, les infidèles, ces peuplades d'Asie qui tombent en pourriture, mais le monde chrétien, c'est calé, c'est solide, bâti par le Fils. Justement, reprit Saint-Pierre, mais ce que le Christ a bâti, le Christ pourrait aussi bien le détruire. Je leur enverrai mon fils divin une seconde fois à ces galériens de par là-bas, et cet antéchrist qui serait le Christ déguisé aurait au fait voulu les mettre en bouillade. Le bon saint parlait dans sa colère, sans bien penser ce qu'il disait, sans se douter surtout que ses paroles seraient répétées au divin maître. Et sa surprise fut grande quand tout à coup le fils de l'homme se dressa devant lui, un petit paquet sur l'épaule au bout d'un bâton de route, ordonnant de sa voix ferme et douce « Pierre, viens, je t'emmène. » À la pâleur de Jésus, à la fièvre de ses grands yeux cernés qui jetaient encore plus de feu que son auréole, Pierre comprit tout de suite et regretta d'avoir trop parlé. Que n'aurait-il pas donné pour que cette seconde mission du Fils de Dieu sur la terre n'eût pas lieu, surtout pour n'être pas lui-même du voyage? Oh, il s'agitait tout éperdu, les mains chevrotantes. Oh, mon Dieu, et mes clés, qu'est-ce que j'en vais faire? C'est vrai que pour une aussi longue route, son lourd trousseau n'était pas commode. Et ma porte, qui me la gardera? Sur quoi Jésus sourit, lisant le fond de son âme, et dit « Laisse les clés sur la serrure, Pierre. Pas de risque qu'on n'entre jamais chez nous, tu sais bien. » Il parlait doucement, mais on sentait tout de même quelque chose d'implacable dans son sourire et dans sa voix. Comme il est dit aux Saintes Écritures, des signes dans le ciel annoncèrent la venue sur terre du Fils de l'homme, mais depuis longtemps les humains, accroupis, ne regardaient plus le ciel et, distraits par leurs passions, rien ne leur signala la présence du Maître et du vieux serviteur qui l'accompagnait, d'autant que les deux voyageurs avaient emporté de la rechange et se déguisaient en tout ce qu'ils voulaient. Pas moins, dans la première ville où ils arrivèrent, la veille, justement, qu'un bandit fameux nommé Sanguinarias, auteur de crimes épouvantables, devait être mis à mort, les ouvriers employés à dresser les bois de justice dans la nuit s'étonnèrent de voir travailler avec eux, au feu des torches, deux compagnons venus on ne sait d'où, l'un souple et fier comme un bâtard de prince, la barbe en fourche, les yeux de pierreries, l'autre, déjà courbé, l'air bonasson et endormi, de longues cicatrices en rigolent sur ses joues fripées. Puis, au petit jour, les chameaux debout, le peuple et les autorités en cercle pour le supplice, les deux étrangers avaient disparu, laissant toute la mécanique si étrangement ensorcelée que lorsqu'on eut étendu le condamné sur la planche, le couteau, pourtant bien aiguisé d'un acier de bonne marque, tomba 20 fois de suite, sans parvenir seulement à lui entamer la peau. L'ouvrier, le tableau d'ici, les magistrats effarés, l'horripilation de la foule, le bourreau bousculant ses aides, arrachant ses cheveux trempés de sueur. Sanguinarias lui-même, il était de bon cœur naturellement, ce maladroit, et joignait à tous ses mauvais instincts un amour-propre diabolique. Sanguinarias, très vexé, tournant et retournant son cou de taureau noir dans la lunette, disant « Ah, ça, mais qu'est-ce que j'ai donc? Je suis donc pas fabriqué comme les autres, qu'on ne peut venir à bout de moi. » Mais à la fin des fins, les gendarmes, obligés de l'emporter de force, de le rentrer dans son cachot, pendant que la canaille hurlante dansait autour de l'échafaud mis en pièces, flambant et crépitant jusqu'au ciel comme un feu de la Saint-Jean. Dès lors, en cette ville, et par toute la terre civilisée, il y eut un sort jeté sur les arrêts suprêmes de la justice. Le glaive de la loi ne coupait plus, et comme c'est la mort seule que les assassins redoutent, bientôt un débordement de crimes couvrit le monde, les rues et les chemins ne furent plus tenables pour les honnêtes gens terrifiés, tandis que dans les centrales, bondés par-dessus les toits, les coupe-jarrets s'engraissaient de bon jus de viande, fendaient la figure de leur gardien à coups de sabot, leur faisaient sauter l'œil avec le pouce, ou simplement par curiosité, s'amusaient à leur dévisser la tête pour voir ce qu'il y avait dedans. Devant le grand dégât causé dans l'humanité rien que par le désarmement de la justice, le brave Saint-Pierre trouva qu'il y en avait assez, et le cœur gonflé de pitié, avec un bon gros rire courtisan. « La leçon est réussie, maître, et je crois qu'ils s'en souviendront. Pas moins, si nous remontions maintenant, c'est que je vais vous dire. J'ai peur qu'on ait besoin de moi là-haut. » le fils de l'homme eut son pâle sourire. Rappelle-toi, fit-il, le doigt levé, ce que le Christ a bâti, le Christ seul pourra le détruire. Et Pierre songeait la tête basse. Bon, j'ai trop parlé, pauvres enfants, j'ai trop parlé. Il se trouvait en ce moment sur des pentes fertiles, au pied desquelles une riche cité impériale étendait à perte de vue ses dômes, ses terrasses, clochers brodés, tours et flèches de cathédrales, où des croix de toutes formes en marbre et en or étincelaient dans le couchant paisible. J'espère qu'ils ont par ici des couvents et des églises, reprit le bon vieillard, essayant de détourner la colère du Seigneur. Ça fait plaisir au moins. Mais vous savez que ce que Jésus méprise sur toute chose, c'est le culte hypocrite et somptueux des pharisiens, ces églises où l'on va à la messe par genre, et ces couvents qui fabriquent du garus et du chocolat. Aussi pressait-il le pas sans répondre, et les moissons étant très hautes, par-dessus les blés dans la descente du formidable destructeur de l'humanité, on ne voyait qu'un paquet de hardes sautillant au bout d'un bâton de broutier. Et donc, en cette ville où ils entrèrent, vivait un vieux, vieux empereur, le doyen des princes de l'Europe, comme il en était le plus juste et le plus puissant, qui gardait la guerre enchaînée aux essieux de ses canons et par force ou persuasion empêchait les peuples de se dévorer entre eux. Tant qu'il serait là, il y avait comme un accord tacite de chien à loup que les oies brouteraient tranquilles. Après, par exemple, gare là-dessous. C'est pourquoi tout le monde y tenait à la vie du bon empereur. Pas une mère qui ne fût prête à s'ouvrir les veines pour lui faire du sang plus vermeil et plus riche. Puis soudainement, tout cet amour se tourna en haine, un mot d'ordre infernal circula. Tuons-le, c'est le bon tyran, le plus exécrable de tous, puisqu'il ne nous laisse même pas le droit de la révolte. Et sous le palais impérial, miné, dynamité, dans la nuit du cerveau où les conjurés s'activaient, de l'eau jusqu'à la ceinture, vous laisse à deviner quel mystérieux compagnon, aux yeux étincelants, menait l'œuvre de mort, fermant les cœurs à la peur, à la pitié, et quand le coup partit, poussant le hourra suprême. Ah, le pauvre empereur, on ne retrouva pas le gros de lui sous les décombres. Quelques flocons de barbe roussie, une main de justice tordue par la flamme, et tout de suite la guerre démuselée hurla. Le ciel fut noir de corbeaux assemblés au-dessus des frontières. La grande tuerie commença et ne finit plus. Et pendant que les peuples s'égorgeaient au moyen d'engins épouvantables, que de toutes parts sur l'horizon les villes prises d'assaut flambaient comme des torches, par les chemins encombrés de bétail en déroute, de charrettes sans conducteur, le long des champs en friche, des fleuves rouges de sang, des vignes et des moissons impitoyablement massacrées, Jésus, de son pas allègre, toujours le bâton sur l'épaule, et sur ses talons le bon vieux saint qui essayait vainement de le fléchir. Jésus tirait vers un pays très loin, où professait un docteur fameux du nom de Monsieur Mauve. Monsieur Mauve, grand guérisseur d'âmes et de bêtes, dirigeait à sa volonté toutes les forces de la nature, avait quasiment trouvé la prolongation de la vie humaine. Il y était, il s'en fallait de ça, quand une nuit, par la maladresse d'un nouveau garçon de laboratoire, très beau, très pâle, et qu'on ne revit jamais plus, plusieurs bocaux remplis des poisons très subtils restèrent débouchés. Et au matin, M. Mauve, en ouvrant sa porte, tomba raide, asphyxié. Du coup, la vie humaine ne fut pas prolongée, bien au contraire, car le savant collectionnait chez lui pour l'étude une foule d'anciens fléaux, d'extraordinaires lèpres d'Égypte et du Moyen-Âge, dont les germes évadés des corps nus se répandirent par le monde entier et le désolèrent. Il y eut des pluies de crapauds empestés et ignobles, comme du temps des Hébreux, puis des fièvres jaunes, malignes, quartes, tierces, secondes, des pestes, des typhus, un tas de maladies perdues, greffées sur de toutes récentes, d'autres aussi qu'on ne connaissait pas encore. Et dans le peuple, tout cela s'appelait le mal de M. Mauve. Oh, Dieu vous garde de ce mal terrible, mes enfants. Les os fondaient comme du verre, les muscles s'effilochaient. On souffrait tant qu'on ne criait plus. Les malades, avant de mourir, tombaient par morceaux, s'en allaient en bouillie sur les chemins, et la voirie n'avait pas assez de pelles ni de tombereaux pour les ramasser. « Matin, voilà une bonne affaire de fête !» disait Saint-Pierre, d'une joie faussement joyeuse où roulaient des larmes. Et à présent, maître, si nous rentrions chez nous, on commence à me languir. Jésus savait bien que ce semblant de languisson cachait une grande pitié pour les humains. Et lui, pourtant si bon, s'était juré de les exterminer jusqu'au dernier. Il faut dire aussi qu'il lui en avait tant fait, on se lasse à la fin. Pour lors, continuant sa route sans répondre, il marchait dans la campagne avec son vieux serviteur par un petit matin vert et rosé lorsque, à travers les appels des coqs et toute la bramée animale qui salue le lever du jour, une clameur humaine vint jusqu'à eux, un cri de femme montant à grandes ondes par épreintes tantôt immense à déchirer l'horizon, puis s'apaisant en une longue plainte douce, à laquelle ceux qui l'ont entendue une fois ne peuvent plus se tromper. Dans le jour qui commençait, un être arrivait au monde. Jésus, songeur, s'arrêta. S'il en naissait toujours, alors à quoi servait de les détruire ? Et tourné vers le chaume d'où le cri était venu, il leva sa main blanche en menace. « Pitié, maître, pitié pour les tout-petits !» sanglota le brave Saint-Pierre. Le Seigneur le rassura d'un mot. « À cet enfant de lait, comme à tous ceux qui naîtraient dorénavant sur la terre, il venait de faire un don de bienvenue. » Pierre n'osa pas demander ce que c'était, mais moi je peux vous le dire, mes amis. Jésus leur avait donné l'expérience à ces pauvres agneaux, et ce fut quelque chose de terrible. Pensez que jusqu'alors, quand un homme mourait, l'expérience de cet homme s'en allait avec lui. Mais voilà qu'après le don de Jésus, il y eut sur la terre de l'expérience accumulée. Les enfants naquirent tristes, vieux, découragés. À peine les yeux ouverts, ils découvraient le bout de tout, et l'on vit cette chose abominable, des suicides d'enfants, des tout-petits, cherchant à se détruire de leurs menottes désespérées. Et cependant, ce n'était pas encore assez. La race maudite ne voulait pas s'éteindre et s'obstinait à vivre quand même. Alors, pour en finir plus vite, le Christ enleva aux hommes et aux femmes le goût de l'amour et le sentiment de la beauté. Il n'y eut plus de joie d'aucune sorte sur la terre, plus d'effusion dans la prière ni dans la volupté. On ne cherchait plus que l'oubli de tout, n'aspirait qu'au sommeil. Oh, dormir, ne plus penser, ne plus vivre. Elle était, comme vous voyez, dans un bien triste état, la pauvre humanité, et n'en avait sans doute pas pour longtemps, car l'infatigable exterminateur hâtait de plus en plus sa besogne. Il parcourait toujours le monde, en errant voyageur, le paquet au bout du bâton, son compagnon derrière lui, bien là, bien courbé, les deux sillons de larmes se creusant davantage le long de ses joues, à mesure que le maître, sur son passage, déchaînait les volcans, les cyclones et les tremblements de terre. Or, un beau matin d'Assomption, comme Jésus marchait sur la mer, glissant à la surface des flots ainsi que nous le montrent les Écritures, il arriva au milieu des îles de l'Océanie, dans ces mêmes parages du Pacifique que nous traversons en ce moment. D'un bouquet d'îles tout verdoyant venaient jusqu'à lui sur la brise de mer des voix de femmes et d'enfants qui chantaient des cantiques provençaux. « Té !» s'écria Saint-Pierre. « On dirait des airs de Tarascon. » Jésus se tourna à demi. « De mauvais chrétiens, je crois, ces Tarasconnais. Oh, maître, oh, ils se sont bien amendés depuis le temps. » S'empressa de répondre le bon saint, craignant que sur un signe de la main divine, l'île dont ils approchaient ne s'engloutit sous les flots. Cette île, vous l'avez deviné, n'était autre que Port Tarascon, où les habitants, à l'honneur de l'Assomption, faisaient une procession solennelle. Et quelle procession, mes enfants! D'abord les pénitents, tous les pénitents, des bleus, des blancs, des gris, de toutes les couleurs, précédés de leurs clochettes qui mêlaient ensemble leurs notes de cristal et d'argent. Après les pénitents, les confréries de femmes, tout de blanc vêtu et couvertes de longs voiles, comme les saintes du paradis. Puis venaient les vieilles bannières, si hautes que les figures de saints aux auréoles tissées en or dans les étoffes de soie semblaient descendre du ciel au-dessus de la foule. Le Saint-Sacrement avançait ensuite, sous son dais de velours rouge, très lent, très lourd, surmonté de grandes panaches, près duquel les enfants de cœur portaient au bout de leurs longs bâtons dorés de grosses lanternes vertes où brûlaient de petites flammes. Et tout le peuple suivait, jeunes et vieux, chantant et priant tant qu'ils avaient de souffle. La procession se déroulait tout autour de l'île, tantôt sur la plage, tantôt au versant des collines, tantôt sur les sommets où les grands encensoirs balancés laissaient de légères fumées bleues dans le soleil. Saint-Pierre, ébloui, murmura « Que c'est beau !» sans une parole de plus, car il désespérait de fléchir son compagnon après tant de vaines tentatives. Mais justement, il se trompait. Le Fils de l'homme, touché au cœur par ses transports de foi naïve, regardait flotter les bannières de Port Tarascon et songeait, immobile sur la crête des vagues, regrettant pour la première fois sa mission de mort. Soudain, il leva son pâle et doux visage, et dans le silence de la mer apaisée, d'une forte voix qui remplit l'univers, il cria vers le ciel « Père, Père, un sursis !» Et ils se comprirent sans plus parler, le Père et le Fils, à travers le clair espace. Le Père Bataillet en était là de son récit. L'auditoire, silencieux, restait sans bouger de place, très ému, quand, tout à coup, du haut de la passerelle du Tutu-Pampan, le capitaine Scrapuchina cria « L'île de Port-Tarascon est en vue, monsieur le gouverneur. Avant une heure, nous serons dans la rade. » Alors, tout le monde fut debout, et il y eut un grand brouhaha. Chapitre 6. Que diable est ceci? Personne au-devant de nous? Dit Tartarin, le tumulte des premiers cris de joie apaisés. Sans doute le navire n'avait pas encore été signalé de la terre. Il fallait s'annoncer. Trois coups de canon roulèrent à travers deux longues îles, d'un vert gras, d'un vert rhumatisme, entre lesquels le steamer venait de s'engager. Tous les regards étaient tournés vers le rivage le plus proche, une étroite bande de sable, large de quelques mètres seulement. Au-delà, des pentes raides, toutes couvertes d'un écroulement de sombre verdure, depuis les sommets jusqu'à la mer. Quand l'écho des coups de canon eut cessé de gronder, un grand silence enveloppa de nouveau ces îles d'aspect sinistre. Toujours personne. Et le plus inexplicable encore, c'est qu'on ne voyait ni port, ni fort, ni ville, ni jeté, ni bassin de radoubre, rien. Tartarin se tourna vers Scrapuchina, qui déjà donnait des ordres pour le mouillage. « Êtes-vous bien sûr, capitaine ?» L'irascible Loncourt répondait par une salve de jurons. « S'il était sûr qu'en cas de sort, il connaissait son métier peut-être, nom d'un tonnerre, il savait conduire son navire. » Pascalon, allez me chercher la carte de l'île, fit Tartarin toujours très calme. Il possédait heureusement une carte de la colonie dressée à une très grande échelle où étaient minutieusement détaillés caps, golfes, rivières, montagnes et jusqu'à l'emplacement des principaux monuments de la ville. Elle fut aussitôt étalée et Tartarin, entouré de tous, se mit à l'étudier en suivant du doigt. Bien, cela, ici l'île de Port-Tarascon, l'autre île en face, là, le promontoire, chose très bien, à gauche les récifs de coraux, parfaitement. Mais alors, quoi, la ville, le port, les habitants, qu'est-ce que tout cela était devenu? Timide, bégayant un peu, Pascalon suggéra que peut-être il y avait là-dessous une farce de Bompard, si connue en Tarascon pour ses plaisanteries. Bompard, peut-être, fit Tartarin, mais Bézuquet, un homme de toute prudence, de tout sérieux. Du reste, pour si farceur qu'on soit, on n'escalmote pas une ville, un port, des bassins de carénage. À la longue vue, on apercevait bien sur la côte quelque chose comme une baraque, mais les récifs de coraux ne permettaient pas au navire d'approcher davantage, et à cette distance, tout se perdait dans le vert noir des feuillages. Très perplexes, tous regardaient, déjà prêts pour le débarquement, leurs paquets à la main. La vieille douairière des Gouloulides elle-même, portant sa petite chaufferette. Et dans la stupéfaction générale, on entendit le gouverneur en personne murmurer à mi-voix « C'est vraiment bien extraordinaire !» Tout à coup, il se redressa. « Capitaine, faites armer le grand canot. Commandant Bravida, sonnez à la milice. » Pendant que le clairon talatatate que Bravida faisait appel, Tartarin plein d'aisance rassurait les dames. « Ah, ne craignez rien, tout va s'expliquer, certainement. » Et aux hommes, à ceux qui ne venaient pas à terre, Ah, dans 1 heure, nous serons de retour. Attendez-nous là, allez, que personne ne bouge. » Il n'avait garde de bouger, l'entourait et disait comme lui. « Oui, monsieur le gouverneur, tout va s'expliquer, certainement. » Et en ce moment, Tartarin leur paraissait immense. Dans le grand canot, il prit place avec son secrétaire Pascalon, son chapelain le père Bataillet, Bonavida, Tournatoire, Excourbagnès, et la milice, tous armés jusqu'aux dents, sabres, haches, revolvers et carabines, sans oublier le fameux Winchester à 32 coups. À mesure qu'on se rapprochait de ce silencieux rivage où rien ne remuait, on distinguait un vieil appontement en madriers et planches, tout rongé de mousse dans une eau croupie. Que ce fut là cette jetée sur laquelle les naturels venaient au-devant des passagers de la farandole, voilà qui semblait incroyable. Un peu plus loin apparaissait une espèce de vieille baraque, aux fenêtres fermées de volets de fer rouge, peints au minium, qui jetait un reflet sanglant dans l'eau morte. Un toit de planches la recouvrait, mais crevassé, disjoint. Sitôt débarqué, ce fut là que l'on courut. Une ruine, à l'intérieur comme au dehors. De grands lambeaux de ciel se voyaient à travers la toiture, le plancher gondolé s'effritait en pourriture de bois, d'énormes lézards disparaissaient dans les crevasses, des bêtes noires grouillaient le long des murs, et de visques crapauds bavaient dans les coins. Tartarin, en entrant le premier, avait failli marcher sur un serpent gros comme le bras. Et partout, une odeur d'humide, de moisi, écœurante et fade. À quelques débris de cloisons encore debout, on reconnaissait que la baraque avait été divisée en compartiments étroits comme des boxes d'écurie ou des cabines. Sur une de ces cloisons se lisait en lettres d'un pied ces mots « Pharma » Bézu. Le reste avait disparu, mangé par la moisissure. Mais pour deviner pharmacie bézuquet, il ne fallait pas être grand clair. « Ah, je vois ce que c'est, » dit Tartarin. « Ce versant de l'île était malsain, et après un essai de colonisation, ils sont allés s'installer de l'autre côté. » Puis, d'une voix décidée, il donna l'ordre au commandant Bravida de partir en reconnaissance à la tête de la milice. Il pousserait jusqu'en haut de la montagne et de là explorerait le pays et verrait certainement fumer les toits de la ville. Dès que vous aurez pris le contact, vous nous avertirez par une mousquetade. Quant à lui, il resterait en bas au quartier général avec son secrétaire, son chapelain et quelques autres. Bravida et le lieutenant Escourbagnès rangèrent leurs hommes et se mirent en route. Les miliciens avancèrent en bon ordre, mais le terrain montant, recouvert d'une mousse algueuse et glissante, rendait la marche difficile et les rangs ne tardèrent pas à se diviser. On traversa un petit ruisseau, sur le bord duquel restaient quelques vestiges d'un lavoir, un battoir oublié, tout cela verdi par cette mousse dévorante, envahissante, qu'on retrouvait à chaque pas. Un peu plus loin, les traces d'une autre construction qui semblait avoir été un blockhouse. Le bon ordre des milices acheva de se désorganiser par la rencontre de centaines de trous très rapprochés les uns des autres, traîtreusement masqués d'une végétation de ronces et de lianes. Plusieurs hommes s'y effondrèrent avec un grand fracas de buffleterie et d'armes, faisant fuir sous leur chute de ces gros lézards pareils à ceux de la baraque. Ces trous n'étaient pas trop profonds, rien que de légères excavations creusées en alignement. « On dirait un ancien cimetière !» observa le lieutenant Escourbagnès. Cette idée lui venait de vagues apparences de croix, faites de branches entrelacées, maintenant reverdies, retournées à la nature, et prenant des formes de cèpes de vigne sauvages. En tout cas, un cimetière déménagé, car il n'y restait plus trace d'ossements. Après une pénible escalade à travers d'épais fourrés, ils arrivèrent enfin sur la hauteur. On y respirait un air plus sain, renouvelé par la brise et tout chargé de senteurs marines. Au loin s'étendait une grande lande, après laquelle les terrains redescendaient insensiblement vers la mer. La ville devait être par là. Un milicien, le doigt tendu, montra des fumées qui montaient, pendant qu'Escourbagnès criait d'un ton joyeux « Écoutez, les tambourins, la farandole !» Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien la vibration sautillante d'un air de farandole. Port Tarascon venait au-devant d'eux. On voyait déjà les gens de la ville, une foule émergeant là-bas, des pentes à l'extrémité du plateau. Oh, halte, dit subitement Bravida, on dirait des sauvages. En tête de la bande, devant les tambourins, un grand noir dansait, maigre, en tricot de matelot, des lunettes bleues sur les yeux, brandissant un tomahawk. Les deux troupes arrêtées et s'observant à distance, tout à coup Bravida partit d'un éclat de rire. C'est trop fort! Ah, le farceur! Et rengainant son sabre au fourreau, il se mit à courir en avant. Ses hommes le rappelaient « Commandant! Commandant !» Mais il ne les écoutait pas, courait toujours et, croyant s'adresser à Bompard, criait aux danseurs en approchant « Oh, connu mon mort! Trop sauvage, trop nature !» L'autre continuait à danser en faisant tournoyer son arme. Et quand le malheureux Bravida s'aperçut qu'il avait en face de lui un véritable canac, il était trop tard pour éviter le terrible coup de casse-tête qui défonça son casque en liège, fit sauter sa pauvre petite cervelle et l'étendit raide. En même temps éclatait une tempête de hurlements, de flèches et de balles. En voyant tomber leur commandant, les miliciens avaient fait feu d'instinct, puis s'étaient enfuis sans s'apercevoir que les sauvages faisaient de même. D'en bas, Tartarin entendit la fusillade. « Oh, ils ont pris le contact !» dit-il allègrement. Mais sa joie se changea en stupeur lorsqu'il vit sa petite armée revenir en désordre, bondissant à travers bois, les uns sans chapeau, d'autres sans souliers, jetant tous le même cri terrifiant « Les sauvages! Les sauvages !» Il y eut un moment de panique effroyable. Le canot prit le large et se sauva à toute rame. Le gouverneur courait sur le rivage, clamant « Du sang-froid !» Du sang-froid, d'une voix blanche, d'une voix de goéland en détresse, qui redoublait la peur de tous. Le pêle-mêle du sauve-qui-peut se prolongea quelques instants sur les trois bancs de sable. Mais comme on ne savait de quel côté fuir, on finit par se rassembler. Aucun sauvage, d'ailleurs, ne se montrant, on put se reconnaître, s'interroger. Et le commandant, mort. Quand Escourbagnès eut raconté la funeste méprise de Bravida, Tartarin s'écria: Malheureux Placide, aussi que l'imprudence, son pays ennemi, il ne s'y colérait donc pas. Tout de suite, il donna l'ordre de placer des sentinelles qui, désignées, s'éloignèrent lentement deux par deux, bien décidés à ne pas trop s'écarter du gros de la troupe. Puis on se réunit en conseil, pendant que Tournatoire s'occupait du pansement d'un blessé qui avait reçu une flèche empoisonnée et enflait à vue d'œil d'une façon extraordinaire. Tartarin prit la parole. Avant tout, évitez l'effusion de sang. Et il proposa d'envoyer le père Bataillet avec une palme qu'il agiterait de loin, afin de savoir un peu ce qui se passait du côté de l'ennemi et ce qu'étaient devenus les premiers occupants de l'île. Le père Bataillet se récria: Ah, veille, une palme? J'aimerais mieux votre Winchester à 32 coups. Eh bien, si le révérend ne veut pas y aller, j'irai moi-même, reprit le gouverneur. Seulement, vous m'accompagnerez, monsieur le chapelain, car je ne sais pas assez le papouas. Moi non plus, je ne le sais pas. Comment, diable, mais alors, qu'est-ce que vous m'apprenez depuis 3 mois? Toutes les leçons que j'ai prises pendant la traversée, quelle langue est-ce donc? Le père Bataillet, en beau tarasconnais qu'il était, se tira d'affaire en disant qu'il ne savait pas le papouas de par ici, mais le papouas de par là-bas. Pendant la discussion, une nouvelle panique se produisit. Des coups de fusil éclatèrent dans la direction des sentinelles, et de la profondeur du bois sortit une voix éperdue qui criait avec l'accent de Tarascon. « Ne tirez pas, mille noms de noms, ne tirez pas !» Une minute après, bondissaient les broussailles, un être bizarre, hideux, couvert de tatouages vermillons et noirs, qui lui faisait comme un maillot d'un clown de la tête aux pieds. C'était Bézuquet. « Tiens, Bézuquet !»« Et comment va ? Mais comment en se fait-il ? Mais où sont les autres ? Et la ville et le port et le bassin Radoub ?»« Ah, de la ville !» répondit le pharmacien en montrant la baraque en ruine. « Voilà ce qui reste. »« Et des habitants, voici !» Et il se désignait lui-même. Mais avant tout, jetez-moi vite quelque chose sur le corps pour cacher les abominations dont ces misérables m'ont couvert. De vrai, toutes les imaginations les plus immondes de sauvages en délire lui avaient été dessinées sur la peau à coups de poinçon. Escourbaniès lui donna son manteau de grand de première classe, et après s'être réconforté d'une lampée d'eau de vie, l'infortuné Bézuquet commença, avec l'accent qu'il n'avait pas perdu et l'élocution tarasconnaise. Si vous fûtes douloureusement surpris ce matin en voyant que la ville de Port-Tarascon n'existait que sur la carte, pensez si nous autres de la farandole et du Lucifer n'arrivons. Pardon, que je vous coupe, dit Tartarin, en voyant les sentinelles à la lisière du bois donner des signes d'inquiétude. Je crois qu'il sera plus sage que vous nous fassiez votre récit à bord. Ici, les cannibales peuvent nous surprendre. Pas du tout. Votre fusillade les a mis en fuite. Ils ont tous quitté l'île. J'en ai profité pour m'évader. Tartarin insista. Il préférait le récit de Bézuquet à bord, devant le grand conseil réuni. La situation était trop grave. On héla le bat-canot qui, depuis le commencement de l'échauffourée, se tenait lâchement à distance, et l'on regagna le navire où tout le monde attendait avec angoisse le résultat de la première reconnaissance. Chapitre 7. Sinistre cette odyssée des premiers occupants de Port-Tarascon, racontée dans le salon du Tutu-Pampan, devant le conseil où siégeaient les anciens, le gouverneur, les directeurs, les grands de première et de deuxième classe, le capitaine Serapouchina et son état-major, tandis qu'en haut, sur le pont, les passagers, fiévreux d'impatience et de curiosité, ne percevaient que le bourdonnement soutenu de la basse-taille du pharmacien et les violentes interruptions de son auditoire. D'abord, sitôt l'embarquement, la farandole, à peine sortie du port de Marseille, Bompard, gouverneur provisoire et chef de l'expédition, brusquement pris d'un mal étrange, de forme contagieuse, disait-il, s'était fait descendre à terre, passant ses pouvoirs à Bézuquet. Heureux Bompard, on eût dit qu'il devinait tout ce qui les attendait là-bas. À Suez, trouvé le Lucifer en très mauvais état pour continuer sa route et transporter sa cargaison sur la farandole déjà bondée. Ce qu'ils avaient souffert de la chaleur sur ce damné navire! Restait-on dehors, on fondait au soleil. Si l'on descendait, on étouffait, serrait les uns contre les autres. Ainsi, en arrivant à Port-Tarascon, malgré la déception de ne rien trouver du tout, ni ville, ni port, ni construction d'aucune sorte, on avait un tel besoin de s'espacer, de se détendre, que le débarquement sur cette île déserte leur semblait un soulagement, une vraie joie. Le notaire Cambalalette, le cadastreur, les avait même égayés d'une chansonnette comique sur le cadastre océanien. Ensuite étaient venues les réflexions sérieuses. « Nous décidâmes alors, » dit Bézuquet, « d'envoyer le navire à Sydney pour en rapporter les matériaux de construction et nous faire passer la dépêche désespérée que vous avez reçue. » De toutes parts, des protestations éclatèrent. « Une dépêche désespérée, mais quelle dépêche ? Mais nous n'avons pas reçu une dépêche. » La voix de Tartarin domina le tumulte. « En fait de dépêche, mon cher Bézuquet, nous n'avons eu que celle où vous racontiez la belle réception que vous avez faite les indigènes, le Te Deum chanté à la cathédrale. » Les yeux du pharmacien s'élargissaient de stupeur. « Un Te Deum à la cathédrale ? Quelle cathédrale ?» Tout s'expliqua. « Continuez, Ferdinand, » dit Tartarin. « Je continue, » répondit Bézuquet. Et son récit devint de plus en plus lugubre. Les colons s'étaient mis courageusement à l'œuvre. Possédant des instruments aratoires, ils commencèrent à défricher, seulement le terrain était exécrable, rien ne poussait, puis vinrent les pluies. Un cri de l'auditoire interrompit de nouveau l'orateur. « Il pleut donc ? Oh, s'il pleut ! Mais plus qu'à Lyon, plus qu'en Suisse, 10 mois de l'année !» Ce fut une consternation. Tous les regards se tournèrent vers les hublots, à travers lesquels on distinguait des brumes épaisses, des nuées immobiles sur le vert noir, le vert rhumatisme de la côte. « Continuez, Ferdinand, dit Tartarin. » Et Bézuquet continua. Avec les pluies perpétuelles, les eaux stagnantes, les fièvres, la malaria, le cimetière fut bien vite inauguré. Aux maladies s'ajoutait l'ennui, le languisson. Les plus vaillants n'avaient même pas le courage de travailler, tellement s'amollissaient les corps dans ce climat tout détrempé. On se nourrissait de conserves ainsi que de lézards, de serpents apportés par les papouas campés de l'autre côté de l'île et qui, sous prétexte de vendre le produit de leur pêche et de leur chasse, se glissaient astucieusement dans la colonie sans que personne se méfiât d'eux. Si bien qu'une belle nuit, les sauvages envahirent le baraquement, pénétrant comme des diables par la porte, par les fenêtres, par les ouvertures du toit, s'emparèrent des armes, massacrèrent ceux qui tentaient de résister et emmenèrent les autres à leur camp. Pendant un mois, ce fut une suite ininterrompue d'horribles festins. Les prisonniers, à tour de rôle, étaient assommés à coups de casse-tête, rôtis sur des pierres brûlantes, dans la terre comme des cochons de lait, et dévorés par ces sauvages cannibales. Le cri d'horreur, poussé par tout le conseil, porta la terreur jusque sur le pont, et le gouverneur eut à peine la force de murmurer encore. « Continuez, Ferdinand. » Le pharmacien avait vu disparaître ainsi, un par un, tous ses compagnons, le doux père Vézol, souriant et résigné, disant « Dieu soit loué !» jusqu'à la fin, le notaire Cambalalette, le joyeux cadastreur, trouvant la force de rire même sur le grill. Et les monstres m'ont obligé à manger de ce pauvre Cambalalette, ajouta Bézuquet, tout frémissant encore de ce souvenir. Dans le silence qui suivit, le bilieux Costecalde, jaune la bouche tordue de rage, se tourna vers le gouverneur. Pas moins, hein? Vous nous aviez dit, vous aviez écrit et fait écrire qu'il n'y avait pas d'anthropophage. Et comme le gouverneur accablé baissait la tête, Bézuquet répondit « Oh, pas d'anthropophage, c'est-à-dire qu'ils le sont tous. Ils n'ont pas de plus grand régal que la chair humaine, surtout la nôtre, celle des blancs de Tarascon, à ce point qu'après avoir mangé les vivants, ils ont passé aux morts. Vous avez vu l'ancien cimetière? Il n'y restera rien, pas un os. Ils ont tout raclé, nettoyé, torché comme des assiettes chez nous, et quand la soupe est bonne ou quand nous sert une carbonade à l'œil au lit. » « Mais vous-même, Bézuquet, demanda un grand de première classe, comment fûtes-vous épargné ?» Le pharmacien pensait qu'à vivre dans les bocaux, à mariner dans les produits pharmaceutiques, menthe, arsenic, arnica, ipecacuana, sa chair à la longue avait pris un goût d'herbage qui ne leur allait sans doute pas, à moins qu'au contraire, justement, à cause de son odeur de pharmacie, on ne l'eût gardé pour la bonne bouche. Le récit terminé. « Eh bien, maintenant, qu'est-ce que nous faisons ?» interrogea le marquis des Espazettes. « Quoi, qu'est-ce que vous faites ?» dit Scarapuccina de son ton hargneux. « Vous n'allez tout de même pas rester ici, je pense. » On s'écria de tous côtés, « Ah, non, non, bien sûr que non. Quoique je ne sois payé que pour vous amener, » continua le capitaine, « je suis prêt à rapatrier ceux qui voudront. » En ce moment, tous ces défauts de caractère lui furent pardonnés. Ils oublièrent qu'ils n'étaient pour lui que des singes verts bons à fusiller. On l'entoura, on le félicita, les mains se tendaient vers lui. Au milieu du bruit, la voix de Tartarin se fit tout à coup entendre sur un ton de grande dignité. « Vous ferez ce que vous voudrez, messieurs, quant à moi, je reste. J'ai ma mission de gouverneur, il faut que je la remplisse. » Scrapuccina hurlait, « Mais gouverneur de quoi, puisqu'il n'y a rien ?» Et les autres, « Bah oui, le capitaine a raison, puisqu'il n'y a rien. » Mais Tartarin, « Le duc de Mons, à ma parole, messieurs. »« Oh, c'est un filou, votre duc de Mons, dit Béziquet. Je m'en suis toujours douté, même en devant avoir la preuve. Où est-elle, cette preuve? Même pas dans ma poche, toujours. Et d'un geste pudique, le pharmacien serrait autour de son corps le manteau de grand première classe qui abritait sa nudité tatouée. Ce qu'il y a de sûr, c'est que mon barbe, agonisant, m'a dit, au moment de quitter la farandole, « Méfiez-vous du Belge, c'est un blagueur !» S'il avait pu parler, m'en dire davantage, mais la maladie ne lui en sait pas la force. D'ailleurs, quelle meilleure preuve pouvait-on avoir que cette île même infertile, malsaine, où le duc les avait envoyés pour défricher et coloniser, et ses fosses des pêches? Un grand mouvement se fit dans le conseil, tous parlant à la fois, approuvant Béziquet, accablant le duc d'injurieuses épithètes, menteur, blagueur, sale belge. Tartarin héroïque leur tenait tête à tous. Jusqu'à preuve du contraire, je réserve mon opinion sur M. de Mons. L'autre est fait d'opinion, un voleur. Il a pu être impudent, mal éclairé lui-même. Oh, ne le défendez pas, il mérite le bagne. Quant à moi, nommé par lui gouverneur le port d'Arascan, je reste à port d'Arascan. Restez dit seul alors. Seul, soit, si vous m'abandonnez, qu'on me laisse les outils de labour. Mais puisque je vous dis que rien ne vient, lui cria Béziquet, vous y êtes mal pris, Ferdinand. Alors Scrapuccina s'emporta, frappant du poing la table du conseil. Mais il est fou! Je ne sais ce qui me tient de l'emmener de force. Et s'il résiste, de le fusiller comme un singe vert. Essayez donc, coquin de sort. Bouffant de colère, le geste menaçant, le père Bataillet venait de se dresser aux côtés de Tartarin. Il eut échange de violentes paroles, de locutions tarasconnaises, telles que « Vous manquez de sens, vous déparlez, vous dites des choses qui ne sont pas de dire. » Oh, Dieu sait comment tout cela eut fini, sans l'intervention de l'avocat Franck Balme, directeur de la justice. C'était ce Franck Balme, un avocat très disert, aux arguments émaillés de « toutefois » et « quantes » d'une part, d'autre part, aux discours cimentés à la romaine, solides comme l'aqueduc du pont du Gard. Beau prud'homme latin, nourri d'éloquence et de logique cicéronienne, déduisant toujours par « verum enim verum » le « parce que » du « parce qu'est-ce », il profita du premier moment d'accalmie pour prendre la parole, et en longues et belles périodes, qui se déroulaient sans fin, émit l'avis d'un plébiscite. Les passagers voteraient oui ou non. D'une part, ceux qui voudraient rester resteraient, et d'autre part, ceux qui voudraient s'en aller s'en iraient avec le navire, après que les charpentiers du bord auraient reconstruit la grande maison et le blockhaus. Cette motion de Franck Balm, qui mettait tout le monde d'accord, une fois adoptée, sans plus tarder, on fit commencer le vote. Une grande agitation se produisit sur le pont et dans les cabines, dès qu'on sut de quoi il s'agissait. On n'entendait que plaintes et gémissements. Ces pauvres gens avaient mis leur avoir en l'achat des fameux hectares. Allaient-ils donc tout perdre, renoncer à ces terres qu'ils avaient payées, à leur espoir de colonisation ? Ses raisons d'intérêt les poussaient à rester, mais aussitôt, un regard sur le sinistre paysage, les jetait dans l'hésitation. La grande baraque en ruine, cette verdure noire et mouillée derrière laquelle on s'imaginait le désert et les cannibales, la perspective d'être mangé comme Cambalalette, Rien de tout cela n'était encourageant. Et les désirs se tournaient alors vers la terre de Provence, si imprudemment abandonnée. La foule des émigrants remplissait le navire d'un grouillement de fourmilières dévastées. La vieille douairière d'Ecboulide errait sur le pont, sans lâcher sa chaufferette ni sa perruche. Au milieu de la rumeur des discussions qui précédaient le vote, on n'entendait que des imprécations contre le Belge, le sale Belge. Oh, ce n'était plus Monsieur le Duc de Mons, le sale Belge. Oh, on disait cela les dents serrées, le poing tendu. Malgré tout, sur 1 000 000 de Tarasconnais, 150 votèrent pour rester avec Tartarin. Il faut dire que la plupart étaient des dignitaires et que le gouverneur avait promis de leur laisser leurs fonctions et leurs titres. De nouvelles discussions s'élevèrent pour le partage des vivres entre les partants et les restants. « Vous vous ravitaillerez à Sydney, » disait ceux de l'île à ceux du navire. « Oh, vous chasserez et vous pêcherez, » répondaient les autres. « Qu'avez-vous besoin de tant de conserves ?» La Tarasque donna lieu aussi à de terribles débats. Retournerait-elle à Tarascon ou resterait-elle à la colonie? La dispute fut très ardente. Plusieurs fois, Scarapuccina menaça le père Bataillé de le faire passer par les armes. Pour maintenir la paix, l'avocat Franquebalm dut employer de nouveau toutes les ressources de sa sagesse de Nestor et faire intervenir ces judicieux « Werum enim werum ». Mais il eut beaucoup de peine à calmer les esprits, surexcités et en dessous, par cet hypocrite d'Escourbagnès, qui ne cherchait qu'à entretenir la discorde. Velu hirsute criard, avec sa devise de « Fen de brute, faisons du bruit ». Le lieutenant de la milice était tellement du midi qu'il en était nègre, et nègre pas seulement par la noirceur de la peau et les cheveux crépus, mais aussi par sa lâcheté, son désir de plaire, dansant toujours la bamboula du succès devant le plus fort, devant le capitaine Scarapuccina, entouré de son équipage quand on était à bord et devant Tartarin, au milieu de la milice quand on se trouvait à terre. À chacun d'eux, il expliquait différemment les raisons qui le décidaient à opter pour Port Tarascon, disant à Scarapuccina « Je reste parce que ma femme va s'accoucher, sans quoi. » Et à Tartarin « Oh, pour rien au monde, je ferai route encore avec cet ostrogoth. » Enfin, après bien des tiraillements, le partage se termina tant bien que mal. La Tarasque restait à ceux du navire en échange d'une caronade d'une chaloupe. Tartarin avait arraché pièce à pièce, vivres, armes et caisses d'outils. Pendant plusieurs jours, il y eut un perpétuel va-et-vient de canaux chargés de 1 000 choses, fusils, conserves, boîtes de thon et de sardines, biscuits, provisions de pâté, d'hirondelles et de pain poire. En même temps, la cognée résonnait dans les bois, où l'on faisait force abattage pour la réparation de la grande maison et du blockhouse. Les sonneries du clairon se mêlaient au bruit des haches et des marteaux. Dans le jour, les miliciens en armes gardaient les travailleurs, par crainte d'une attaque des sauvages. La nuit, ils restaient campés sur le rivage, autour des bivouacs. « Pour se rompre au service en campagne, » disait Tartarin. Quand tout fut prêt, on se quitta un peu fraîchement. Les partants jalousaient les restants, ce qui ne les empêchait pas de dire, sur un petit ton moqueur, « Si ça marche, écrivez-nous, alors nous reviendrons. » De leur côté, malgré leur apparente confiance, Bien des colons auraient préféré être à bord. L'ancre dérapée, le navire tira une salve de coups de canon, et la caronade, servie par le père Bataillet, répondit de la terre pendant qu'Escourbe Agnès jouait sur sa clarinette « Bon voyage, cher Dumollet !» N'importe. Quand le tutu-pampan eut doublé le promontoire et définitivement disparu, bien des yeux se mouillèrent sur le rivage et la rade de Port Tarascon devint subitement immense.